Bonjour ou rebonjour à cette webconférence et bienvenue à cette webconférence consacrée à Arkema. Arkema, c'est un des leaders mondiaux des matériaux de spécialité qui propose des solutions technologiques de pointe dans des marchés très diversifiés. Pour rappel, le groupe est issu de la scission en 2006 d'une partie des activités du groupe Total, dans un environnement marqué par les perturbations opérationnelles et le coût élevé des matières premières et d'énergie. On verra comment Arkema avance sur l'exécution de sa feuille de route stratégique. On parlera également de l'accélération de la demande en matériaux innovants et évidemment de son parcours boursier. Et j'ai le plaisir cette année encore d'accueillir Béatrice Zlim. Bonjour Béatrice.
Bonjour Sarah.
Je rappelle que vous êtes directrice de la communication financière du groupe. Bienvenue également à notre public virtuel. Vous pouvez poser toutes vos questions via la plateforme. On prendra quelques instants à la fin de cette conférence pour y répondre. Béatrice, il y a tout juste un an, ici même sur ce plateau, on parlait du recentrage stratégique d'Arkema. Alors ensemble, on va dresser un bilan de tout ce qui s'est passé chez vous en une année. Et cela pourrait paraître anecdotique, mais parmi vos temps forts en 2021, il y a ce changement d'identité visuelle qui en dit long sur les ambitions du groupe.
Oui, alors tout à fait. Un changement d'identité visuelle et de signature pour un groupe, c'est une étape importante en fait. Pour nous, ça accompagne notre transformation vers les matériaux de spécialité. C'est important pour nos clients et pour nos partenaires, mais c'est aussi important en interne pour toutes les équipes. Il faut réussir à illustrer notre nouveau corps de métier. Il faut être percutant tout en étant simple, aller à l'essentiel. Ça a été un gros travail
pour mettre en
place. Ouais, exactement. Mais je vous propose plutôt que de parler, de vous le faire découvrir à travers le petit film qui va suivre.
C'est parti alors.
Je pense
nouvelle
que,
identité visuelle.
Exactement. Je pense que vous l'avez compris à travers ce film. Hein. Ce sont les matériaux de spécialité au service des grandes tendances durables qui sont le cœur de métier et le nouveau territoire de marque d'Arkema. Totalement en ligne d'ailleurs avec notre stratégie long terme. Alors à l'occasion de cet événement, nous avons également réaffirmé le socle des quatre valeurs qui accompagnent Arkema depuis sa création. Nous avons ajouté une cinquième valeur, qui est l'inclusion, pour souligner toute l'importance qu'on accorde à la diversité et je dirais plus largement à l'ouverture à la différence. Alors si on revient sur ces matériaux de spécialité, comme vous l'avez vu dans le film, on les trouve dans des secteurs très diversifiés, que ce soit, je dirais, dans le bâtiment, dans les peintures et revêtements, mais aussi dans les biens de grande consommation, dans l'électronique, le transport. En fait, ils accompagnent notre quotidien.
À différents niveaux, sans qu'on le sache.
Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que la demande pour ces matériaux est en forte croissance. Alors pourquoi ? Déjà parce qu'ils sont très performants et aussi parce qu'ils permettent de répondre à quelques-unes, et malheureusement pas toutes, mais quelques-unes des problématiques que nous connaissons aujourd'hui, comme par exemple le réchauffement climatique, la protection des ressources, etc. Si on prend le réchauffement climatique, tout bêtement, on se dit, il faut améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments.
Ça passe par une meilleure isolation.
Exactement. Donc chez nous, on a des produits Bostik que certains d'entre vous qui bricolent doivent connaître, qui sont des joints d'isolation. Nous avons des mousses également d'isolation pour les bâtiments. On fait du double vitrage, on fait des revêtements réfléchissants. Dans un autre domaine, pour lutter contre le réchauffement climatique, l'allègement des véhicules, par exemple, on a des polymères qui viennent remplacer le métal pour alléger les véhicules. Et ces polymères, en fait, qui sont de haute performance, mais qui sont également recyclables. Certains sont même biosourcés. On les retrouve dans beaucoup d'objets du quotidien. Chaussures de sport, pour ceux qui aiment le foot. Enfin, on en avait déjà parlé l'an dernier.
Mais, c'est vrai, les chaussures, mais ça marque les esprits.
Donc, exactement. Les lunettes, typiquement, les montures de lunettes, des choses légères, translucides, design. Ouais. Donc, on le retrouve...
Beaucoup de domaines.
Dans beaucoup de domaines, exactement.
Donc, effectivement, revêtements innovants, les fameuses baskets, donc une diversité des marchés finaux pour Arkema. Arkema, c'est aussi une très, très grosse machine qui est présente dans 55 pays. Vous allez, Béatrice, justement, partager avec nous quelques chiffres clés et l'occasion surtout de se pencher sur les performances du groupe en 2021.
Oui, effectivement. Donc Arkema, grand groupe international, plus de 20 000 collaborateurs, 55 pays, vous l'avez dit, environ 140 sites industriels, 7 centres de R&D dans le monde. Trois grandes régions pour nous, l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Europe. Alors en 2021, effectivement, nous avons eu de très bons résultats. Nous avons été même à notre plus haut historique, ouais. Malgré un environnement qui était quand même complexe, opérationnel, qui était difficile. Nous avons atteint un chiffre d'affaires de 9,5 milliards. Nous avons clairement bénéficié du rebond post-Covid, comme beaucoup d'entreprises et dans beaucoup de secteurs. Ouais. Nous avons également vu, de notre côté, une accélération de la demande pour des matériaux plus durables et de haute performance, ce qui correspond totalement à notre stratégie. Ouais. Donc c'était plutôt une bonne chose. La répartition de nos ventes est restée assez équilibrée entre les trois régions que j'ai citées précédemment. Alors ça, c'est plutôt un atout quand on voit le monde qui se régionalise quand même beaucoup, avec beaucoup de contraintes logistiques. C'est aussi un gage de résilience parce que devant la volatilité, le fait d'être diversifié au niveau des produits, mais aussi au niveau des régions également, c'est une vraie force. Exactement, c'est une vraie force. Donc, j'ai rapidement écouté l'intervenant précédent. Effectivement, nous avons été confrontés à une forte inflation des matières premières et de l'énergie pendant toute l'année. Nous avons réussi, en fait, par une politique active, je dirais, d'augmentation et d'ajustement des prix, à maintenir une marge décente, même plus que décente, à 18%.
Plus que décente.
Oui, 18% de marge d'EBITDA. Donc,
c'est une la marge très belle... brute d'exploitation.
Oui, à peu près. Oui.
Pour les novices.
Exactement. Et du coup, si on regarde le bilan, le dernier volet, le bilan du groupe, il est resté très solide, une dette nette qui est restée très bien maîtrisée et une génération de trésorerie assez importante.
Bon, finalement, 2021, si je comprends bien, a tout bon, un chiffre d'affaires en forte hausse, une belle progression de cette fameuse marge brute d'exploitation. L'année dernière, Béatrice, nous avions parlé ensemble de votre feuille de route stratégique qui était, si je ne m'abuse, particulièrement ambitieuse. Alors, depuis l'an dernier, quelles sont les avancées que vous pouvez partager avec nous ?
Alors effectivement, il y a eu beaucoup de choses en 2021, mais avant, j'aurais juste revenir rapidement sur cette ambition qui est de faire du groupe un acteur centré uniquement sur les matériaux de spécialité à l'horizon 2024, avec un chiffre d'affaires un peu supérieur à 10 milliards, une marge d'EBITDA de l'ordre de 17%. Donc vous voyez avec les chiffres clés que je vous ai donnés avant qu'on n'est pas très loin du compte. Oui. Donc ces objectifs, l'atteinte de ces objectifs en fait qu'on avait définis en plein Covid quand même, ce qui était pas, qui avait été jugé très ambitieux à l'époque, ils sont en bonne voie, il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Alors pour soutenir cette feuille de route, il y a quatre éléments clés. Le premier, c'est le recentrage vers les matériaux de spécialité à travers des acquisitions et des cessions d'activités non stratégiques. Le deuxième levier, c'est plus de la croissance organique sur des projets à forte rentabilité. Ensuite, on a la R&D, l'innovation au service des grandes tendances qu'on a évoqué précédemment. Et le quatrième volet, c'est la feuille de route RSE.
Donc la responsabilité sociale
et
environnementale, effectivement. Donc quatre volets. Revenons peut-être sur le premier que vous avez évoqué, la transformation de votre portefeuille. Dans votre feuille de route, il y a effectivement cette échéance de 2024, puisque d'ici là, les matériaux de spécialité représenteront la totalité de l'activité d'Arkema. À date, c'est 85%,
exact.
C'est ça ?
Exact.
Ouais. Tout à fait. Et en 2021, vous avez franchi deux étapes majeures que vous allez nous montrer.
Oui, en 2021, en fait, en mai, nous avons finalisé la cession du PMMA, qui est une activité qui ne faisait pas partie des matériaux de spécialité. Oui. Donc pour une valeur d'entreprise de plus d'un milliard d'euros. Mmh. Et la deuxième étape très importante, c'est l'acquisition des adhésifs de performance d'Ashland. Cette acquisition, nous l'avons finalisée en février dernier, un peu plus d'un milliard six de dollars cette fois-ci.
Donc une acquisition.
De valeur d'entreprise. Et ce qui est important et intéressant avec cette acquisition, c'est une acquisition de taille déjà importante. Mmh. Et elle permet en fait, elle nous permet... dans la partie adhésive de notre portefeuille, de franchir un cap, parce qu'il y a beaucoup de synergies avec Bostik, enfin avec les activités existantes.
Avec les activités.
Alors, on n'a pas fait que ces deux grosses acquisitions, on a fait également quatre acquisitions plus petites.
D'accord.
Principalement dans les adhésifs aussi.
Oui.
Et en fait, cette dynamique d'acquisition 3, on dit 3 à 4, acquisition un peu plus petite, mais ciblée sur, à forte valeur ajoutée. Cette dynamique, on va la continuer hein, pour continuer à renforcer encore davantage nos matériaux de spécialité, ce qui est le but ultime.
Qui est votre but, donc.
Alors, si on intègre, juste pour revenir sur les 85% que vous avez mentionné tout à l'heure, donc si on intègre tout ce qu'on a fait en 2021, on est plutôt à 90% aujourd'hui.
D'accord, plus proche de 90% à date.
Ouais. Oh oui, peut-être même un peu plus.
D'accord. Hein.
Donc, on est en bonne voie pour cet objectif de pure player.
Pour finaliser cette feuille de route.
Exactement.
L'autre grand chantier en matière de croissance organique, c'est cette fois-ci celui de Singapour.
Oui, parmi les projets qui vont contribuer à notre croissance organique, l'un des plus essentiels est sans aucun doute le polyamide 11 de Singapour. Alors, le polyamide 11, je rappelle, c'est... un matériau 100% biosourcé à partir de graines de ricin qui est recyclable et qui dispose de propriétés assez exceptionnelles, qui est utilisé dans les marchés que j'ai évoqués tout à l'heure, le transport, les biens
dans
de consommation.
Dans tous les différents marchés
Pratiquement.
Okay. Par exemple, on peut le retrouver dans quoi
dans votre voiture,
d'accord.
Sous le capot. Alors, on n'y va pas souvent. Enfin, en tout cas, nous, les femmes, on y va moins peut-être que d'autres, mais sous les capots de voiture.
En tout cas, si on s'y aventure.
Des lignes de refroidissement, par exemple, les voitures. Vous le retrouvez dans des textiles techniques aussi.
D'accord.
Dans des chaussures de sport. Vous
donc, sans le savoir, effectivement. Ouais, donc,
exactement.
Gros chantier du côté de Singapour.
Oui, alors ça sera, d'ailleurs, gros chantier. Vous dites gros chantier, ça sera l'usine. Je pense que c'est l'une des plus grandes usines mondiales au monde. Hein, de polymères biosourcés totalement intégrés, donc qui devrait démarrer cet été.
Ok.
Alors, encore un autre élément, dans le timing et dans l'enveloppe budgétaire prévue, ce qui, pour le coup, n'était pas évident, vu les contraintes qu'on a pu connaître avec la pandémie et les confinements.
Pas simple,
exactement. Alors, en dehors de ce gros projet, on a d'autres investissements, bien sûr, pour accompagner nos clients sur des projets techniques et qui restent toujours dans la même idée de décarbonation, d'évolution vers des modes de vie plus durables. On a, par exemple, annoncé des accélérations dans le développement du PVDF, qui est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans les batteries. On a également l'élastomère Pebax, pour lequel on va augmenter la capacité mi-2023. Donc, beaucoup de projets également.
De ce côté-là. Ouais.
Exactement. Juste un dernier élément, excusez-moi, je vous coupe. Les investissements, chez nous, c'est à peu près 5,5% du chiffre d'affaires du groupe. Alors, excepté le gros investissement de polyamide 11, qui est hors, qui est exceptionnel, on va dire.
Alors, vous avez mentionné l'accélération en matière de recherche et développement. Il est vrai que le contexte est d'ailleurs plutôt favorable avec ces transformations actuelles, comme celle de la transition énergétique, vous l'avez rappelé, qui génère de nouveaux leviers de croissance, Béatrice.
Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, la demande pour ces nouveaux matériaux ne cessera de croître. Et ces grandes tendances, elles engendrent, je dirais, des nouveaux besoins et des défis technologiques aussi. Hein, quand on parle des batteries, de l'hydrogène, on y reviendra tout à l'heure, mais des vrais défis technologiques auxquels nous pensons, Arkema, pouvoir répondre à notre R&D. Juste pour vous donner un ordre d'idée, sur plus de 220 brevets déposés l'an dernier, 90% étaient liés au développement durable.
D'accord. Oui, donc effectivement, aujourd'hui, ça occupe...
Ça occupe beaucoup de la dynamique de nos équipes R&D. Donc notre R&D est organisée en 5 plateformes qui répondent à ces enjeux. Mmh. Et nous pensons que toutes les opportunités qu'on pourrait trouver pour nos produits existants, mais même sur des nouvelles applications, devraient nous permettre de générer à peu près 1,5 milliard d'euros additionnels par rapport à 2019 à l'horizon 2030.
Donc là, effectivement, on va le rappeler quand même, les différentes opportunités dans des domaines très variés, puisque habitat, électronique, etc. N'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. Et alors, je voudrais moi juste revenir sur un élément qui est... Enfin, je dirais, c'est pas un marché, mais c'est une tendance. Oui. Et c'est vraiment quelque chose qui se développe beaucoup aujourd'hui. C'est la mobilité propre, on entend beaucoup parler. Les batteries. Mm-hmm. Dans les batteries, c'est vrai que c'est un domaine qui est en pleine expansion. Nous, en tant qu'Arkema, nous fournissons des composants qui vont directement dans les cellules électrochimiques des batteries. Mais nous participons en fait un peu à tout l'écosystème des batteries, que ce soit par exemple avec les adhésifs pour assembler les cellules, avec nos polymères dont on a parlé tout à l'heure, pour les lignes de refroidissement. Alors dans les voitures, c'est aussi pour les batteries, c'est également pour le pack batterie. Et là, on revient une nouvelle fois sur le sujet de l'allègement, pour limiter la consommation des véhicules. On a beaucoup de...
Je vous en prie, allez-y.
Beaucoup également de partenariats, pour, vous le voyez sur ce slide, pour développer les batteries du futur. Et nous pensons qu'on devrait pouvoir générer, tout produit confondu chez Arkema, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires dans les batteries à l'horizon 2030.
2030, d'autant que ce que je voulais dire, c'est qu'en 2021, c'était un segment qui a porté la croissance.
Exactement, il y a eu une énorme croissance en 2021. Oui. Alors la mobilité propre, ça n'est pas que les batteries électriques, c'est aussi l'hydrogène qui est en très forte accélération.
Avec le plan européen, notamment. Exactement. Exactement. Beaucoup de financement de ce côté-là.
Oui, on attend beaucoup. Alors nous, en tant qu'Arkema, on peut être présent à différents niveaux de la chaîne. Je dirais à ce stade, le domaine dans lequel on est le plus pertinent, c'est sur les réservoirs. Parce que les réservoirs d'hydrogène nécessitent des matériaux qui soient très performants, parce qu'ils sont soumis à des très hautes pressions, à plusieurs centaines de bars. Mmh. Et en même temps, ils doivent rester légers une nouvelle fois.
Oui, donc forcément, contraintes supplémentaires. Donc là, on a parlé de mobilité propre. Mmh. C'est peut-être l'occasion de faire un point sur l'avancée de vos engagements en matière de RSE, le fameux acronyme, je le rappelle, qui désigne la responsabilité sociale et environnementale. Et sur ce sujet, Arkema, en tant que chimiste, a évidemment un rôle à jouer.
Oui, effectivement, la responsabilité sociétale d'entreprise, c'est quelque chose qui devient incontournable et c'est plutôt une très bonne chose. Mmh. C'est vrai que les nouvelles attentes sociétales nous obligent et c'est très bien à nous adapter et à en tenir compte pour dans notre développement stratégique. Alors, comment on travaille, nous, côté Arkema, en fait, on a défini un certain nombre d'orientation et d'action RSE. Nous en validons régulièrement la pertinence auprès de nos parties prenantes, que ce soit nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires, nos investisseurs également, ou même les représentants des territoires dans lesquels nous sommes implantés. Mmh. Et en fait, il en ressort comme enjeux les plus prioritaires aujourd'hui. Alors d'une part, la sécurité des personnes et des procédés, ainsi que la réduction de notre empreinte environnementale.
Sur les sites, évidemment.
Exactement. La réduction de l'empreinte environnementale de notre activité. Donc qui sont des sujets sur lesquels on travaille et on progresse. Et le deuxième volet, c'est la contribution à un monde plus durable. Mm-hmm. Et ça s'articule autour de trois enjeux sur lesquels on travaille également. C'est le plan climat, donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie circulaire et l'offre de solutions durables.
Donc effectivement,
et pour tous ces enjeux, nous avons on a défini des indicateurs avec des objectifs assez précis. Précis à l'horizon 2030, vous allez me dire que c'est loin, mais
c'est pas tant que ça au final.
Oui, puis c'est des choses. C'est une industrie de temps long, la chimie, donc on ne peut pas tout changer.
Effectivement, ça prend aussi beaucoup d'années pour mettre en place de nouveaux process. Et d'ailleurs, concrètement, en 2021, vous avez continué de progresser sur de nombreux indicateurs, que ce soit l'exigence en matière de sécurité, on l'a dit, ou sur l'engagement pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre. On le voit sur cette slide.
Oui, effectivement, nous avons progressé Mais ça ne nous empêchera pas de continuer. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on continue nos efforts, oui. Même si on progresse tous les jours. Je voudrais juste revenir sur les trois piliers qui sont sur ce slide au niveau de la sécurité. Au poste, ce qu'on appelle la sécurité au poste de travail, mm-hmm. Qui est de 1 accident par million d'heures travaillées, on figure parmi les meilleurs de l'industrie. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et on reste à ce niveau très élevé. On s'est fixé un objectif de 0,8 mm-hmm. qui est vraiment... très, très, très exigeant.
Très ambitieux.
Ah, oui, c'est déjà un. Maintenir un, c'est déjà énorme. Après, sur la sécurité...
Parce qu'en moyenne, sur l'industrie, on est quand même plus...
En moyenne, sur l'industrie, comme je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne vous répondrai pas, mais sachez que quand Arkema a été créé, il y a une quinzaine d'années, on était au-dessus de 10.
Oui. Donc effectivement, on voit quand même le chemin parcouru par les
exactement.
Équipes.
Et ça, c'est Arkema sur les sites. Donc, c'est les agents Arkema plus les sous-traitants.
Oui.
C'est
plus
tout
les sous-traitants, oui. Ça, on l'oublie. Il faut quand même le mentionner que...
C'est y compris les sous-traitants. Alors, il y avait un autre domaine sur lequel il faut qu'on progresse, c'est la sécurité des procédés. Mm-hmm. Nous avons un peu mis l'accent là-dessus en 2021. Mm-hmm. Alors, on a progressé, on est passé de 4 à 3,1 accidents. Enfin, incident, parce que c'est pas...
Incident, c'est ça.
Des incidents, ça peut être une fuite, une vanne, des choses comme ça.
Okay. Donc, vous êtes très regardé d'ailleurs sur ce sujet-là.
Ça fait partie, ces choses-là font partie aussi de la rémunération des dirigeants. Mm-hmm. Donc c'est important de savoir que ce n'est pas juste pour faire joli. Il y a une vraie intention et un vrai commitment des gens là-dessus. Un autre aspect qui est important, c'est la diversité. On en parle beaucoup. On progresse également.
24%.
Nous avons un taux de 24% de femmes dans l'encadrement supérieur. Sachant que chez Arkema, globalement, compris, on est à 26% de femmes. Donc,
Oui,
c'est encadrement. Alors, c'est même en dessous, ça descend un peu en dessous. Hein. Mais juste pour comparaison, effectivement, sur la globalité d'Arkema, on est à 26% de femmes. Donc, on est pratiquement équivalent. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas progresser encore.
Mais en tout cas, il y a des efforts qui sont faits.
Il faut qu'on accélère. Et puis aussi sur la diversité des profils de nos managers à travers le monde. Mm-hmm. Dernier point, parce que je sais que c'est très important et que les gens y prêtent une attention particulière, le climat. Mm-hmm. Donc, nous avons atteint moins 34% par rapport à... Alors, la référence, c'est 2015.
Par rapport à 2015, bien évidemment.
La référence, c'est 2015. On a perdu 34%. Enfin, on a diminué 34% nos émissions de gaz à
effet de serre.
L'année
de la COP 21, oui.
Alors, on est sur une trajectoire bien en dessous de 2 degrés, mm-hmm. donc c'est plutôt pas mal. Et on est très à l'aise on est très content et on est en avance en fait sur notre objectif qui est de 38% à l'horizon 2030. Donc vous voyez, il ne reste que 4%. Bon, au-delà
donc
de ça, ça paraît simple, mais en même temps, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a beaucoup d'unités, et notamment le polyamide 11 à Singapour, beaucoup d'investissements qui vont rentrer en service. Donc il va falloir qu'on efface. Oui. Toutes ces émissions additionnelles pour pouvoir baisser le tout.
Sûr.
Alors, tous ces progrès sont assez reconnus par les agences de notation. Mm-hmm. Nous avons rejoint, je crois que c'était en mars 2021, le CAC 40 ESG, qui regroupe les 40 plus grandes entreprises de la place Paris.
Engagées sur les questions.
Avec les meilleures pratiques.
Les meilleures pratiques,
on dit comme on veut.
ESG.
Et puis, nous avons progressé aussi au DJSI World, qui est un index assez regardé. Nous sommes passés de la 6e à la 3e place. Dans la catégorie chimie.
On voit en tout cas les efforts et la stratégie d'Arkema sur ce sujet, qui est évidemment très regardée et c'est une très bonne transition puisqu'on va parler du cours de bourse. Béatrice, après une année évidemment hors normes, en l'occurrence celle de 2021, les marchés sont particulièrement chahutés depuis le début de l'année. Inflation, guerre en Ukraine, fin des politiques très accommodantes des banques centrales. Évidemment, pénurie des matériaux qui affectent de nombreux secteurs. On voit finalement... que Arkema résiste plutôt bien.
Alors, c'est très vrai pour 2021. Mmh. On a fait plus que bien résister, puisqu'on a eu une très belle croissance du niveau de l'action de plus de 30%, pratiquement 4 points au-dessus du CAC, et le double du panel de pairs que nous suivons. Alors, c'est sans doute dû à nos excellents résultats, à la reconnaissance de notre recentrage vers les matières de spécialité qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est vrai que depuis le début de l'année, c'est plus compliqué.
C'est plus compliqué, mais il y a quand même une résistance.
on reste en ligne avec nos pairs, donc on n'est pas particulièrement atteint, donc ça c'est plutôt rassurant. Mais il y a un autre élément que je voudrais mentionner, parce qu'au-delà du cours de bourse, c'est le dividende, puisque pour Arkema en tout cas, c'est une composante et un véhicule essentiel de retour à l'actionnaire. Mm-hmm. Nous l'avons augmenté de 20% l'an dernier, nous sommes passés à 3 euros, compte tenu des excellents résultats et de cette politique de croissance progressive du dividende. Et nous pensons pouvoir atteindre à peu près 40% de taux de distribution, pardon, j'allais vous le dire en anglais, ce n'était pas le but, d'ici 2024, sachant qu'historiquement, là, si on prend les dernières années, les trois dernières années qui ont été un peu chaotiques, on est à peu près à 30%. Donc on a encore un potentiel en tout cas, de croissance du dividende.
Vous faites
pour
bien
le
de le mentionner, c'est un élément quand même très regardé par les investisseurs. Merci
exactement.
Béatrice pour cette présentation, encore une fois très éclairante. On va maintenant prendre quelques questions du public. La première de Salomé, on entend beaucoup parler des tensions et des surcoûts logistiques. Qu'en est-il pour vous et voyez-vous une amélioration, cher Clément ?
Alors effectivement, cette tension et ces surcoûts logistiques, on l'a observé depuis le premier semestre 2021, déjà où il y a eu pas mal de... notamment aux États-Unis, on a eu des hivers rigoureux, des tempêtes, etc. Il y a eu, je l'ai dit, pour 2021, pour nos résultats, il y a eu un rebond post-Covid, je pense, qui n'a pas été anticipé. Oui. Donc toutes les chaînes ont été très vite tendues. Alors, on a eu même, nous, des volumes, on l'avait dit, pendant la fin 2021, notamment dans les adhésifs, des manques de matières premières.
Est-ce qu'il y a là pour toutes les entreprises de toute façon ?
Exactement, oui. Alors, c'est soit des manques de matières premières, soit des difficultés à exporter nos produits finis. Alors, au-delà de ça, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, les confinements aussi, qui jouent beaucoup sur... je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cette carte géographique qu'on voyait par les petits points de tous les containers qui étaient postés autour de Shanghai. C'est impressionnant. Oui. Donc, il va falloir, pour répondre à la question, effectivement, ça peut générer des pertes de volume et ça génère des surcoûts. Sur les pertes de volume, on ne peut pas faire grand-chose. Sur les surcoûts, ce qu'on essaie de faire, et on l'a plutôt bien réussi, c'est de retranscrire dans les prix des produits finis les augmentations. Et je dirais que le marché devrait se normaliser à un moment. Ce n'est pas encore complètement le cas. Les tensions sont toujours là aujourd'hui.
En tout cas, ça va finir par se normaliser. Comment faites-vous pour intégrer les hausses de coûts de matériaux dans vos prix de vente, nous demande Ernest sur la plateforme.
Alors les hausses de coûts, c'est un petit peu comme la logistique en fait. Ce qu'on fait nous, c'est qu'on met tout, on regarde tous les aspects. La hausse des matières premières qui est arrivée finalement un peu avant la hausse des produits logistiques et même de l'énergie. L'énergie, c'est plutôt l'Europe d'ailleurs. Ouais. Donc les matières premières, l'énergie, le transport, et on discute avec nos clients en leur expliquant le pourquoi et la nécessité pour nous d'augmenter les prix. Mais ça s'est fait sur toute la chaîne en fait. Ça part des matières premières et ça va jusqu'au pot de peinture que vous trouvez.
Mais c'est possible grâce à votre pricing power et votre expertise finalement aussi.
Exactement. Alors ça marche bien quand la demande est là.
Oui, si jamais la demande...
Il y avait beaucoup de demandes en 2021, donc c'est vrai que ça nous a aidés, on va être honnête, on ne peut pas croire que... Donc c'est sûr que si la demande commence à baisser un petit peu, les prix vont baisser, mais tout va rebaisser, donc finalement, mécaniquement, vous y retrouvez.
Bien sûr.
Donc il y a un décalage qui squeeze plus ou moins les marges, mais à la fin des fins, tout le monde s'y retrouve.
Alors, tout autre sujet pour conclure la conférence, Jean nous demande qu'apportent vos matériaux dans les véhicules à hydrogène ?
C'est une excellente question. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Dans le véhicule à hydrogène, pour l'instant, là où on voit notre valeur ajoutée, c'est sur les réservoirs. Les réservoirs, en fait, il y en a plusieurs types. Il y a les réservoirs qui sont dans les véhicules. Il y a aussi les réservoirs qui permettront de transporter l'hydrogène dans les stations de ravitaillement. Donc il y a deux types de réservoirs. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des réservoirs à double enveloppe ou à simple enveloppe en fonction des générations.
Donc vraiment les réservoirs, en fait.
Les réservoirs. Donc nous, sur les doubles enveloppes, on est à l'intérieur du réservoir. On fait un liner, comme on dit, en polyamide 11, dont je parlais tout à l'heure, qui est imperméable à l'hydrogène, donc pour éviter les fuites, par exemple. On fait également le casing, donc le pack, qui permet, comme je disais tout à l'heure, d'être très... très résistants aux très hautes températures, donc ils sont en PA11, ils sont en hélium aussi, qui est une autre, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais qui est une autre résine 100% recyclable, qui fait les pales éoliennes, je crois qu'on en avait parlé l'an dernier.
On en avait parlé l'année dernière, oui.
Exactement. Qui seront...
Et du coup, on en reparlera l'année prochaine.
Bah exactement, peut-être. Et qui permettent également de faire ces réservoirs. Donc c'est vraiment une question de matériaux de haute performance, de propriétés technologiques. Et de légèreté aussi.
En tout cas, on le voit voilà, que derrière l'hydrogène, qui fait souvent la une de l'actualité économique et financière, on a des acteurs comme vous.
Exactement. Et après, en dehors des réservoirs, vous avez les piles à combustible après qui permettent de transformer l'hydrogène en électricité dans les voitures.
Ouais.
Et là, on travaille également. Là, on a aussi notre carte à jouer là-dessus. Donc, beaucoup, très fort potentiel.
Grand volet, en tout cas. Exactement. Merci, Béatrice, pour cette conférence.
Merci à vous.
Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette webconférence.